Place à présent à la conférence hebdomadaire des Nations Unies avec M. Carlos Araújo, le porte-parole ad intérim.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, membres de la presse, auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Je suis Carlos Araújo, porte-parole intérimaire. Nous avons avec nous aujourd'hui nos collègues de l'équipe pays des Nations Unies, représentés ici par Joseph Potopoto pour le pilier développement et Fabienne Pompée pour le pilier humanitaire. La situation militaire sera présentée aujourd'hui par le chef de bataillon, Major Guillaume Larabi, porte-parole militaire intérimaire. Commençons par les activités des responsables de la MONUSCO. Le chef de la MONUSCO félicite Dr. Mugwenge, lauréat du prix Civil Courage 2013. Je félicite Dr. Mugwenge du fond de mon cœur. Le prix Civil Courage est une marque de reconnaissance pour le travail accompli par Dr. Mugwenge et l'ensemble de son personnel de l'hôpital de Panzi. Il honore de manière générale tous ceux qui combattent héroïquement les violences sexuelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Il envoie un message fort au peuple congolais. Nous devons nous tenir coude à coude et mettre un terme à cette violence atroce des droits de l'homme. Nous devons mettre fin au terrorisme sexuel, a déclaré M. Kobler. Martin Kobler a visité l'hôpital de Panzi au Sud Kivu le 8 octobre et a rendu hommage au travail accompli par la clinique. Dr. Denis Mukwege est un défenseur de l'humanisme et nous devons lui témoigner notre reconnaissance. Pour cela, nous avons besoin de plus de personnes comme lui, des personnes qui nous poussent à faire plus pour la dignité humaine partout, a conclu le représentant spécial. Ce communiqué de presse vous sera donné à la fin de la conférence de presse. Le représentant spécial du secrétaire général à la République démocratique du Congo, Martin Kobler, est aujourd'hui à Kampala pour participer à une réunion informelle sur le processus politique en RD Congo. La réunion connaît également la participation de plusieurs autres personnalités, dont l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Mary Robinson, et l'envoyé spécial de l'Union africaine dans la région. L'objectif poursuivi est de réduire la tension liée au pourparlers de Kampala, encourager la signature d'un accord dans les plus brefs délais. La MONUSCO est prête à appuyer la mise en application d'un accord. Avant de se rendre à Kampala, Martin Kobler a rencontré hier pour la première fois le président congolais Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Ils ont discuté sur comment faire avancer le processus en RDC. De Kampala, le chef de la MONUSCO partira pour New York, où il présentera le lundi 21 octobre prochain le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Nous allons maintenant passer la parole à nos collègues de l'équipe pays, en commençant par le pilier développement. Joseph, vous avez la parole.
Merci. Une école de formation de la police a été inaugurée ce mercredi 16 octobre 2013 à Kasapa, à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Ceci dans le cadre de la cinquième phase du projet de renforcement de capacité de la police nationale congolaise. Ce projet qui a démarré en 2009 grâce au financement de l'Agence japonaise de coopération internationale vise à renforcer les capacités des policiers pour les rendre plus aptes à remplir efficacement leurs missions suivant les normes internationales dans le respect des droits et libertés dans un État démocratique. À ce jour, près de 4400 policiers ont été formés sur toute l'étendue de la RDC, et spécialement à Kapalata dans la province orientale, à Kasangulu dans la province du Bas-Congo, à Goma pour les provinces du Nord, Kivu et du Sud Kivu. Cette cinquième phase d'une durée de 6 mois et d'un coût total de 2 millions de dollars américains. Elle devra assurer la formation de 500 policiers, dont 30 femmes dans les Katanga, et s'inscrit donc dans la continuité du partenariat quadripartite Police nationale congolaise, MONUSCO, UN, Pol, coopération japonaise et PNUD qui a débuté en 2009. Un communiqué officiel vous sera distribué à l'issue de la conférence de presse. Il faut noter aussi que ce jeudi 17 octobre 2013, la communauté internationale célèbre la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. La directrice générale de l'UNESCO invite les nations et le peuple du monde à élever l'éradication de la pauvreté au rang de priorité absolue de toute politique de développement. Elle considère que l'extrême pauvreté est un frein au plein exercice des droits humains un obstacle au développement et une menace pour la paix. Plusieurs millions de personnes sont toujours victimes de famines. 842 millions souffraient toujours de la faim chronique entre 2011 et 2013. Pour la directrice générale de l'UNESCO, les sursauts sont possibles. Les solutions existent, au premier rang desquelles figure l'éducation qui ouvre les portes de l'insertion sociale, des compétences et de l'emploi, a déclaré la directrice générale de l'UNESCO, dont le message intégral vous sera distribué à la fin de la conférence de presse. Merci.
Merci, Joseph. Nous passons à l'humanitaire avec notre collègue Fabienne. Vous avez la parole.
Bonjour, bonjour. Donc, hier, c'était la journée mondiale du lavage des mains. Donc, c'est un point mis sur l'hygiène et la nécessité d'améliorer les conditions d'hygiène. Demain, c'est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Moi, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une autre journée mondiale. C'est celle de l'alimentation. Cette année, le programme alimentaire mondial a voulu mettre l'accent sur la nutrition. Alors, quelle est la situation en RDC? Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles d'abord, c'est qu'il y a encore dans ce pays 6,5 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique, qu'il y en a 1 sur 10 qui souffrent de malnutrition aiguë, ça veut dire qu'ils sont malades. Heureusement, tous ne meurent pas, mais il y a des conséquences et des séquelles terribles à l'âge adulte, même quand on a des épisodes de malnutrition quand on est enfant. Et un enfant malnutri ne se développe jamais physiquement et intellectuellement comme il le devrait. Donc il manque d'énergie, il n'a pas assez de vitamines, pas assez de micronutriments, il a des difficultés à suivre à l'école et tout ça, ça aura des conséquences sur sa vie adulte. On a aujourd'hui quand même 40% des adultes en RDC qui ont des retards de croissance, ça veut dire des baisses de productivité et tout ça, ça a un impact sur le développement du pays. Alors il y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la malnutrition, ça se soigne et ça se prévient et que le gouvernement, à travers le Pronanut et avec ses partenaires, l'UNICEF, l'OMS, le PAM, la FAO, ont uni leurs efforts pour éradiquer ce fléau. L'UNICEF et le PAM, à eux deux, soignent chaque année 300 000 enfants et femmes enceintes et allaitantes qui sont touchés par la malnutrition sévère ou modérée. Donc ce sont des gens qui peuvent ensuite retrouver une vie absolument normale. L'autre bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a adhéré récemment à l'initiative SUN. C'est une initiative mondiale qui prône le renforcement des actions pour la nutrition. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience et une vraie mobilisation. Pour continuer cette lutte, il faut des moyens. Alors là, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est que c'est un investissement qui paie. C'est certainement le meilleur investissement qu'on puisse faire au Congo. C'est-à-dire qu'on a calculé que si on injecte chaque année 200 millions de dollars dans la lutte contre la malnutrition, on a en retour, en progrès économique et en revenus, 15 milliards de dollars. Donc je ne connais pas un autre investissement dans le monde qui rapporte autant. En revanche, bon, au jour le jour, les financements ne sont pas toujours à la hauteur des besoins. Et le PAM, par exemple, n'a pas actuellement les ressources adéquates pour faire face et risque d'être dans quelques mois en rupture de stock de produits nutritionnels et espère que les bailleurs de fonds continueront à soutenir cette lutte importante contre la malnutrition.
Merci beaucoup, Fabienne. Le major Guillaume Larabie va maintenant nous présenter la situation militaire.
Merci, Carlos. Bonjour à tous. La situation militaire pour cette semaine. La situation sécuritaire dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo a été jugée relativement calme durant la semaine écoulée. En province orientale, les opérations conjointes menées la semaine dernière par la force tunisienne et les forces armées de la République démocratique du Congo ont permis de maintenir l'environnement sécuritaire sous leur contrôle. En effet, durant la semaine écoulée, la force de la MONUSCO et les FRDC ont poursuivi avec détermination leurs 3 opérations conjointes lancées dans les districts du Haut et Bawélé. Il s'agit notamment des opérations Retour 2, Point d'acier et Bienvenue à la paix. En Ituri plus particulièrement, le climat sécuritaire demeure imprévisible au sud du territoire d'Irumu, suite aux accrochages récurrents entre les FRDC et les miliciens du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri, FRPI. Par ailleurs, les activités négatives d'éléments armés observées au nord et au nord-est de la localité d'Arou, près des régions d'Imbokolo et de Kenjezi, constituent une préoccupation supplémentaire à la protection des populations civiles dans le secteur. Du 9 au 11 octobre, des combats sporadiques ont lieu entre les FRDC et les miliciens du FRPI au sud du territoire d'Irumu. Les 12, 13 et 14 octobre, des accrochages ont repris entre les troupes gouvernementales et les rebelles du FRPI, notamment dans certaines régions situées au sud du territoire d'Irumu. Les deux parties ont fait usage de mitrailleuses lourdes, de mortiers, de lance-roquettes. Les FRDC ont repoussé avec succès les assaillants, conservé leur position initiale et poursuivi leurs opérations vers Mbaba et Batumbi, situés respectivement à 15 et 18 km au sud-est d'Aveba. À cet effet, la force de la MONUSCO a placé tous ses postes opérationnels déployés dans ce secteur en alerte maximale, dans le but de dissuader toute exaction contre les populations civiles et d'assurer également leur protection. Le premier bataillon bangladais de la force continue d'apporter tout l'appui nécessaire aux troupes gouvernementales engagées dans ces opérations. Ce contingent surveille étroitement les conditions de vie des personnes déplacées, tout en facilitant leur accès à l'assistance humanitaire des organisations non gouvernementales déployées dans cette région. Par ailleurs, les opérations conjointes dénommées Pierre d'Acier, Serre de l'Aigle ou Coup de pas du Tigre, initiées dans le district d'Ituri par la force et les FRDC, se sont poursuivies normalement. En dépit d'une tension observée au nord Kivu la semaine dernière, notamment dans les régions situées au nord de la ville de Goma, la situation sécuritaire est toutefois restée sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Par ailleurs, les rebelles du M23 conduisent des opérations de bouclage et de ratissage dans les régions sous leur occupation. Ils harcèlent et arrêtent arbitrairement à cette occasion des civils suspectés de collaborer avec les Mai Mai Niatura ou d'autres groupes armés. La brigade de la force de la MONUSCO déployée dans cette province y poursuit sans répit la conduite de ces 6 opérations unilatérales dans le but de dominer le terrain et de dissuader toute activité des groupes armés, notamment le M23. Les 9 et 10 octobre 2013, dans le cadre de renforcement des capacités des unités de l'armée congolaise, la brigade du Nord Kivu a initié un exercice tactique d'état-major dénommé Umeme Mgomo, portant sur la planification et la conduite des attaques dans les régions montagneuses, ainsi que sur les procédures de combat, au profit de 46 officiers et 129 autres soldats des 41e et 42e bataillons commando des FRDC. Le 11 octobre, des éléments du M23, embusqués sur la colline Helmet, ont pris pour cible un hélicoptère de la force de la MONUSCO en mission de reconnaissance d'Ichacha vers Goma et tiré approximativement 50 cartouches d'armes automatiques. Le 12 octobre 2013, 6 combattants Mai Mai ont été tués et un autre appréhendé au cours d'accrochage avec les FRDC à Vurondo. Le 13 octobre, 14 civils, y compris 12 élèves de la communauté Houndé, qui avaient été kidnappés entre les 25 et 26 septembre 2013 par des éléments Mai Mai de la faction Sheka Nduma Défense du Congo, NDC. Enlevé au cours d'accrochage avec les éléments de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, à Luimbo, situé approximativement à 12 km au nord de Nyabondo, ont été libérés. Donc ces 14 civils, compris 12 élèves, ont été libérés en toute sécurité et remis au commandant du poste opérationnel de la force de la MONUSCO de Pinga, grâce aux multiples efforts fournis par cette base onusienne. En effet, les casques bleus du 3e bataillon uruguayen déployés dans cette région et le comité international de la Croix-Rouge sont parvenus, notamment avec l'aide des assistants de liaison communautaire, à libérer au préalable des civils de la communauté Nyanga, kidnappés le 15 septembre 2013 par des combattants de l'APCLS à Nyabondo, conformément à la demande du groupe Mai Mai Tcheka, avant de procéder à la libération des otages. Du 7 octobre 2013 à ce jour, au total, 21 éléments en provenance de différents groupes armés se sont rendus aux troupes tunisiennes et aux différents bureaux de la section DDRRR déployés dans la région, notamment à Kiwanja, Nyamilima, Sake, Lufu, Kanyabayonga, Katale et Mpati. Il s'agit de 7 du M23, 4 du groupe armé du Mouvement Populaire d'Autodéfense, MPA, 6 des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, 1 du groupe Mai Mai Front Populaire Congolais, 1 élément Mai Mai de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, et 2 du groupe Mai Mai Yira. La poursuite par les troupes onusiennes de leurs 8 opérations unilatérales dans les différents territoires du Sud Kivu favorise l'installation d'un climat sécuritaire stable dans cette province. La situation sécuritaire demeure volatile et imprévisible dans plusieurs régions situées au nord de la province du Katanga. Elle demeure incertaine au centre de cette partie du pays à cause de l'augmentation des activités des éléments Maïmaï Gédéon et Bakata Katanga, particulièrement dans les territoires de Pueto, Manono et Mitwaba. La situation sécuritaire est demeurée tendue dans le secteur 2, particulièrement autour de Misoke dans le territoire de Pangi, suite à la présence des Maïmaï Raya Mutumbuki observés autour de cette localité. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1344 patrouilles armées, dont 600 nocturnes, et fourni 37 escortes, pendant que 304 autres patrouilles ont été réalisées par les observateurs militaires. Je vous remercie.